bonsoir à tous, de retour pour le magazine du mardi soir. Et puis ben, on a entamé en janvier un petit cycle, alors on continue en février. Aujourd'hui on parle des boîtes en lutte, des luttes de boîtes, du front des boîtes qui luttent. Et on a décidé à Canal Sud cette semaine d'aller se farfouiller à l'extérieur, d'aller mettre notre nez dehors et d'aller dans la rue. Bah oui, c'est dans la rue que ça se passe, comme disait l'autre. Et donc on a rencontré des salariés de différentes boîtes, on l'avait déjà fait en janvier, cette fois on va passer une heure entière dans la manif qui s'est tenue la semaine dernière, jeudi dernier, la manif contre le pacte de responsabilité, d'austérité du gouvernement. On va rencontrer des salariés de ThyssenKrupp Ascenseur, de la CGT Construction, d'Habitat Toulouse, d'IBM, de l'INRA et même des stagiaires, ouais, des stagiaires qui nous raconteront à la fin pourquoi ils se battent et dans quelles conditions ils arrivent à se mobiliser. Du coup, ben écoutez, on vous propose de passer cette petite heure ensemble. La programmation sera agrémentée de pas mal de musique un peu marrante, un peu décalée, parce que la lutte sociale, ça peut être aussi une occasion de se marrer, une occasion de se faire plaisir. Allez, on vous laisse en compagnie de cette petite émission, ça dure 40 minutes, et puis on terminera avec l'ambiance sonore des manifs, un peu de prog musical pour terminer cette journée. À vous l'antenne.
Ouais, ben, je suis Denis Hendrix, représentant du personnel à l'agence de ThyssenKrupp Ascenseur à Toulouse. Hey Joe, on s'associe au mouvement national parce que chez nous il y a un plan social, un PSE, donc qui va toucher pratiquement 300 emplois. Ça, ils ont sorti ça au mois d'octobre et on est en négociation pour l'instant jusqu'à février avant que le dossier soit déposé à la directe. Ça concerne dans le bassin toulousain pratiquement une quinzaine de postes. Voilà, donc,
sur combien
ThyssenKrupp Ascenseur, on est 2500 en France.
D'accord.
Et répartis un peu en une cinquantaine d'agences. Et ça touche, il y a 289 postes. La direction nous dit 153 licenciements secs. Mais bon, nous, on sait très bien que ça va être beaucoup plus, sachant qu'il y a déjà eu une cinquantaine de démissions depuis 3 mois, 4 mois.
En précision de tout ça, c'est pour 5% de bénéfices en plus.
Ouais, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle les licenciements boursiers, parce qu'actuellement, les sociétés d'ascenseurs étaient à 15% de marge depuis 5 ans, et tous les ans, ils perdent 1%. Aujourd'hui, ils sont à 10% de marge brute, et il faut encore que les actionnaires gagnent toujours plus. Ils veulent arriver à nouveau, en 2015, arriver à 15%. Donc, ils font des suppressions de postes par la masse salariale, voilà. Et pour en mettre toujours plus, nous, on est contre ces licenciements parce qu'on a une charge de travail déjà suffisamment importante. Il y a beaucoup de boulot. Les ascenseurs, ça marche bien. Alors, il faut savoir qu'on fait partie d'un groupe mondial où ils ont fait des mauvais investissements dans certaines parties du monde. Et donc, nous, en Europe, l'ascenseur, ça marche bien. Donc, il faut qu'on rapporte plus au groupe.
Comment on peut lutter contre ça?
Ben, on peut lutter en se battant, en prouvant que justement le boulot, il y en a, il en faut pour tout le monde. Et voilà, il faut absolument montrer que le boulot, il ne faut pas bâcler le boulot non plus. Parce qu'aujourd'hui, dans la maintenance des ascenseurs, ils font la chasse aux temps morts. Et ils veulent absolument trouver les temps de déplacement entre deux interventions, trouver des possibilités, il y a trop de temps mort. Voilà, ils veulent absolument employer les gens à 100%, alors qu'on est déjà, ça fait partie du boulot, donc on a des déplacements. Et, voilà. Ils veulent nous géolocaliser aussi.
Comment ça se passe, concret le boulot au quotidien? Vous êtes hyper mobile
Alors, ouais, on a une certaine mobilité. Alors, les gens maintenant, avec les nouvelles lois qu'il y a eu, avant, les gens avaient la responsabilité d'une tournée de maintenance d'appareils. Maintenant, c'est plus comme ça. C'est des gens qui sont au bureau et qui disent à la personne, la veille pour le lendemain, bah, tu as tel et tel appareil à faire. Ils n'ont plus vraiment de tournée affectée. C'est sectorisé, mais on tient plus compte vraiment de ce que la personne doit faire. Enfin, OSAV, Lionel, comment...
OSAV, il y a quand même un secteur qui est plus ou moins défini. Mais... Le problème, c'est que ce sont des secteurs qui bougent énormément. Donc ils ne sont jamais fixes. Après voilà, on a une masse de travail qui est tout le temps de plus en plus importante. Il y a un an, on nous a rajouté à peu près 20% de travail. Là, cette année, on nous a encore rajouté 20% d'appareils en plus. Donc c'est 20% de travail en plus. Voilà, quoi, c'est jamais défini, les secteurs sont jamais définis. Ce qui fait que quand on commence à retaper les ascenseurs bien, quand on récupère les appareils, on commence à les retaper, on commence à les connaître, donc on gagne du temps petit à petit parce qu'on sait ce qui va pas, on sait ce qui va et tout ça. Et bim, et là on nous change tout et donc voilà, donc c'est. Des fois on a l'impression de travailler un peu pour rien et c'est un peu chiant aussi. Quoi. If you can get me out of here, you can have your key back. This is where I start to have fun.
Travail, on en a beaucoup, surtout dans le secteur de l'ascenseur, il faut le partager et montrer que et c'est, si on est là aujourd'hui, et, c'est pour combattre ce plan social, et le, ce qu'on appelle tout simplement les licenciements boursiers, parce que c'est pour ramener plus aux actionnaires, parce qu'eux ne veulent pas diminuer leur rendement. Voilà. On fait, et c'est au détriment de beaucoup de la sécurité. Et nous, on s'attache beaucoup à la sécurité. Voilà, dans les ascenseurs, c'est trop important. Et voilà, la sécurité de l'usager, mais aussi du personnel. Chez nous, il faut qu'on travaille en sécurité, mais on nous demande d'aller toujours plus vite, plus vite. Faut presque, quand on fait des interventions, il faudrait presque avoir fini avant d'être arrivé. Donc c'est vraiment la chasse à la seconde, à la minute.
Et le problème, c'est que ça nous a déjà coûté deux accidents de travail. Hein. Cette vitesse de devoir aller vite.
Alors les accidents, voilà. Il y a aussi... Alors chez nous, aujourd'hui, il y a aussi les RPS, les risques psychosociaux, qui de plus en plus... mais c'est pas un effet de mode, hein, faut pas croire. Il y a de plus en plus de gens malheureusement qui pètent les plombs. On a eu des suicides chez nous, il y a eu des tentatives de suicide. Les gens ont une pression énorme, et voilà, beaucoup d'arrêts de travail pour dépression, mais aussi bien chez les cadres, les non-cadres, dans tout secteur, tout niveau d'activité et secteur niveau de hiérarchie aussi.
C'est comme si ça faisait partie, c'était un risque quand tu vas au travail de faire une dépression. Quoi.
Voilà, ouais, en plus, ouais, c'est un. Ouais. Enfin, c'est la dénomination, les risques psychosociaux. Donc, c'est la prévention donc, qu'on essaye de faire. Quand on dit qu'il y a un risque, c'est la prévention. Tout ça, c'est dû à la pression du travail, la charge de travail, la pression.
Comment on combat ça en interne ?
En essayant de discuter avec les gens, d'essayer de... Alors, les gens prennent sur eux-mêmes. Les gens prennent sur eux-mêmes et on essaye de se fédérer, justement. Parce que le problème, c'est qu'ils individualisent les gens, ils disent les choses à une personne, ils mettent la pression sur une personne. L'autre à côté, pas forcément, mais le lendemain, c'est un autre. Ça tourne, c'est des boucs émissaires. Et un jour, c'est un, le lendemain, c'est un autre et tout. Et les gens, quand ils voient que ça tourne, ils se disent, moi, il faut que je fasse attention, je ne dis rien, parce que sinon, ça risque de me tomber dessus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de langage de dire, si ça ne va pas, on te vire, tu as du boulot, tu es content d'avoir du boulot.
Comment ça se passe pour en termes syndical dans la boîte ?
Nous, on est assez unitaire au niveau des syndicats. Il n'y a pas plusieurs syndicats, enfin, il y a deux syndicats principaux. Mais donc on s'entend bien, on a une certaine unité syndicale donc chez nous à la CGT, bon donc on est majoritaire et c'est ce qui fait qu'il y a un rapport de force et c'est ce qui freine un petit peu la direction. Les directions où ils sont contents, c'est quand il n'y a pas d'unité syndicale, il y a différents syndicats qui se tapent entre eux. Pendant que les syndicats discutent entre eux, ben, pendant ce temps-là, c'est le jeu de la direction. Donc de notre côté, nous, chez ThyssenKrupp Ascenseur, on a une certaine majorité, mais jusqu'à quand? Chez nous, à Toulouse, ça va, mais il y a d'autres agences où c'est pas ça.
Donc, okay. Voilà. Alors, redis-moi ton prénom.
Denis.
Merci.
Merci.
Je travaille dans une petite société qui est sur le secteur toulousain. Et là, aujourd'hui, on est en train de manifester pour l'ensemble des salariés pour qu'ils puissent acquérir sur les formations, sur l'évolution de leur carrière et tout ça.
Toi, tu es dans le secteur de la construction.
Oui.
Comment ça se passe dans ton entreprise et conditions de travail?
Les conditions sont de plus en plus déplorables, puisque de nos jours, on essaye de plus de voir le financement, le bénéfice de l'entreprise, qu'essayer de voir le comment on travaille, quoi. Parce que maintenant, les gens regardent plus le bénéfice que les conditions de travail, puisque nous, en fait, on adhère au syndicat pour améliorer ces conditions de travail, mais le patronat est toujours dans le but de faire du profit, pour en fin de compte que le salarié régresse, qui vit dans la précarité, puisque les salaires n'augmentent pas. Et que nous, en tant que syndicalistes, on essaye de faire évoluer les carrières des gens, quoi.
Comment ça se passe concrètement, cette logique financière dans ton boulot, tu le sens comment au quotidien?
Ça se voit dans la précarité des gens, puisque des fois on se retrouve avec des véhicules mal entretenus et les gens ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et ça fait que maintenant, les gens ils vivent dans la précarité, mais ils ne le disent pas, quoi, en fait. Ça ne se dit pas au grand jour, quoi. Mais la précarité est liée, elle est ancrée, quoi, dans le bâtiment. Et les gens ils sont obligés de travailler pour essayer de payer leurs factures à la fin du mois. Même s'ils n'y arrivent pas, ils essayent de combler avec du travail dissimulé un peu à droite, à gauche, pour essayer de combler les fins de mois, un peu rude, mais ils essayent, quoi. Ils essayent de subvenir à leurs besoins familiaux, quoi.
Ouais, c'est une boîte sous-traitante,
c'est une boîte normale, mais il y a beaucoup de sous-traitance. Et le seul bémol, c'est qu'on sous-traite beaucoup et qu'on ne favorise pas l'embauche des gens qui sont en France, quoi. On essaye plutôt d'aller vers la sous-traitance, ça va nous coûter moins cher et on prendra une marge. Forte et d'essayer de moins embaucher pour dire voilà, on ne peut pas embaucher puisque on a des sous-traitants. On remplace les sous-traitants par les embauchés, quoi, en fait. D'accord. C'est le seul bémol qu'il y a. Et le patronat essaye de plus en plus de délocaliser la matière première de la construction. Puisque maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sous-traitent et ne favorisent pas l'embauche. On n'essaye plus de faire évoluer les gens. Vu que la précarité s'installe en France, on embauche moins et il y a de plus en plus de chômeurs. et que l'État ne fait rien, quoi. L'État se laisse manipuler par le patronat.
Et concrètement, ton poste de travail, t'as quel poste, toi ?
Moi, je suis dans la maçonnerie. Je suis dans la maçonnerie. Je construis, je bâtis, je fais un peu de tout. Et voilà, il y a des nouveaux matériaux qui sont plus adaptés maintenant, qui sont plus spécifiques et plus adaptés, et qu'on a besoin de formation pour évoluer dans notre carrière, puisque les matières évoluent et nous on n'évolue pas, quoi. On
reste pas de formation.
Surtout que le pire, c'est qu'on cotise beaucoup pour les formations, mais qu'on n'en bénéficie pas, quoi. Que l'entreprise essaye de moins former les gens pour ne pas les payer plus. Parce que plus on les forme, plus ils vont évoluer dans leur carrière, plus on va les payer. Et l'entreprise veut essayer de réduire cette marge.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ta boîte et ailleurs pour améliorer la situation ?
Oui, si pour améliorer les choses, c'est d'essayer d'augmenter les salaires pour qu'ils aient plus de qualifications, essayer de plus les former et de moins prendre les sous-traitants, de privilégier les sous-traitances et de garder, de préserver le métier en France, quoi. Parce que le métier en France, il est en train de disparaître. Dans la maçonnerie, il est en train de disparaître. Il faut que le ministre du Travail puisse se réveiller, quoi. Parce qu'il y a certains mouvements syndicalistes, certaines manifestations qui ont été apportées pendant toutes ces années qui sont passées, alors qu'on ne fait rien, quoi. Ils ne se disent pas pourquoi ils manifestent, qu'est-ce qui ne va pas.
Parce qu'on a l'impression, là, en les entendant, qu'ils ils appliquent la même politique qu'en face,
ouais, voilà,
et qu'ils
ouais.
sont d'accord.
C'est la rue qui sait ce qui ne va pas, quoi. Parce que si les gens commencent à ne pas consulter la rue avant d'agir. S'ils agissent sans consulter la rue, c'est bien dommage. Parce que là, ils perdent beaucoup de choses, quoi.
Le bricoleur, peut-on le faire ? Le bricoleur, oui, on peut ! Ne traînons pas, le travail n'attend pas. Construire et réparer, tout doit être parfait.
Mohamed.
Et sa bande s'amuse si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Peut-on le faire ?
Oui !
Peut-on le faire ?
Oui !
Le bricoleur ! Peut-on le faire ? Le bricoleur !
Bonjour, c'est pour la radio Canal Sud. Je vous entends créer un slogan. Carassou, HSUS, le salaire c'est la misère. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, le slogan ?
Ah oui, c'est assez simple. Stéphane Carassou, c'est le président d'Habitat Toulouse. Donc le principal organisme HLM de l'agglomération, pas même de la région même. Donc Habitat Toulouse, lié à la mairie de Toulouse. Et on est en pleine négociation annuelle obligatoire, avec un désaccord assez profond, hein, avec les propositions qui nous sont faites. Parce que nous, on est sur une revendication globale de 100 euros par personne pour tous, et on nous propose 132 euros annuels. Voilà. Donc tu vois le fossé. Et voilà, donc on a décidé aujourd'hui de peser sur les négociations en cours et d'interpeller directement le président pour qu'il intervienne auprès de la direction générale et qu'ils revoient leur position.
Et les conditions de travail des salariés, ça se passe comment aujourd'hui ?
Alors justement, on a lancé une enquête sociale par le biais du comité d'entreprise où on est majoritaire, la CGT. Donc on a lancé une enquête sociale qui va démarrer bientôt justement pour faire le point sur les conditions de travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, à la fois de la souffrance au travail mais aussi du manque de considération. On se rend compte que les charges de travail augmentent sur tous les postes, que les projets de la présidence et de la direction à venir, hein, les projets de développement, sont certes sans doute très intéressants et on est prêt à s'y engager, mais il faut qu'il y ait un retour sur les salariés aujourd'hui, il n'y est pas.
Et pour pallier à ce problème, c'est quoi les modes d'action ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Déjà pour nous, la journée du 6 février est extrêmement importante. Elle nous a permis de nous mobiliser, d'organiser une assemblée générale ce matin, on était 130 en assemblée générale, et de faire débrayer une partie du personnel qui a répondu à notre mot d'ordre. Et aujourd'hui, l'idée c'était de constituer un cortège dynamique dans la manif, d'être visible. Je crois que l'objectif est atteint. Et puis on va voir la prochaine séance de négociation comment ça se passe. On n'oublie pas non plus qu'on est ici aussi sur un mot d'ordre national contre les mesures d'austérité, le virage libéral pris par le gouvernement actuel qui soi-disant s'est fait élire sur un programme soi-disant de gauche et qui nous applique une politique libérale aujourd'hui.
Ton prénom ?
Yann.
Il est allé en ville, le fils de la Marie. Voyant la vie facile et plus gai qu'au pays. Mais depuis qu'il habite dans sa cage à lapin, il a mal à la tête et ça lui brouille le teint. On se se plaint toujours de l'habitat rural. L'habitat urbain marche encore plus mal. Il faut relever l'habitat urbain.
Ouais. J'ai 23 ans et je suis en emploi d'avenir à Habitat Toulouse.
D'accord.
Un emploi d'avenir de plombier. Ça fait depuis le septembre que j'y suis.
Et donc, pourquoi tu es là aujourd'hui dans la manif?
Parce que en parlant avec les collègues de boulot, il s'avère qu'il y a quelques incohérences. Parce que en fait il y a des gens qui ont 17 ans de carrière chez Habitat Toulouse et le salaire n'a pas évolué. Ils ont pris quoi 50 euros en peut-être 20 ans de boîte. Donc, moi je trouve pas ça normal, je me dis bon pour le moment ça va, mais moi quand je serai à leur place, je voudrais bien que ça évolue aussi. Donc je me dis si l'injustice il est pour eux, il sera pour moi aussi, donc c'est pour faire évoluer et surtout qu'on a une entreprise qui quand même fait beaucoup de bénéfices, je crois plus de 80 millions d'euros de bénéfices de loyer, je veux dire bon. Je pense que ça doit être un peu réparti, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'y vais, donc voilà. Et pour être solidaire aussi avec les anciens, surtout parce que pour le moment j'en ai pas vraiment besoin, parce que je viens de rentrer et tout, mais c'est surtout pour être solidaire avec les anciens, donc voilà.
Et toi, donc t'es en contrat d'avenir?
Ouais, c'est ça.
C'est ces fameux contrats aidés, etc. Comment ça se passe concrètement, ce genre de boulot?
Donc c'est un CDD sur 3 ans. Donc ils me forment sur un autre métier, autre que j'ai là, c'est en tant que plombier, donc je suis agent polyvalent. Donc je suis avec un gars, je tourne, il me forme, il me montre le secteur et tout. Donc voilà, comme je suis comme un ouvrier normal, sauf qu'on me forme sur un autre métier. Donc voilà.
Et au niveau de la paye, c'est...
Ce qui est bien dans cette entreprise, c'est que quand même ils se sont calqués sur comme si j'étais un jeune salarié qui venait débuter. Ça qui est bien, par rapport à d'autres contrats à venir où c'est un certain pourcentage du SMIC, eux ce qui est bien c'est ça. Donc voilà, et comme je compte rester dans cette entreprise, c'est pour ça que j'essaye d'être solidaire avec les gars pour faire évoluer ça, surtout pour dans l'avenir, quoi, que si je souhaite évoluer, que je reste pas au même niveau, quoi.
Donc là, c'est vraiment la modification principale, c'est les augmentations, parce qu'il n'y a rien eu depuis...
C'est ça, apparemment que les gars qui sont dans la boîte, ils me disent que là, j'ai commencé comme ça, et généralement, jusqu'à peut-être 20 ans ou 30 ans, je vais pas bouger, quoi. Donc, ça me fait un peu drôle quand même, d'ici 20 ans, de rester pareil, quoi. Si j'ai une femme, des enfants...
Sur un petit espace, grand comme un poulailler, les gens, on les entasse, on en met des milliers. Et ça les turlupine de perdre la santé et de voir que leur vue a tendance à baisser. Voilà ce qu'il écrit, le fils de la Marie, de vivre à la ville, ça la ramollit. Il faut relever l'habitat urbain qui est tombé bien bas, oui ça c'est certain. Et pour relever l'habitat urbain, les commères avec indignation relèvent la bannière de la contestation. La vieille mémé Thérèse, qui n'entend plus très bien, exige qu'on l'écoute et dit d'un air coquin. Pourtant son gamin était un chaud lapin, de vivre à la ville, ça ne lui vaut rien. Il faut relever l'habitat urbain. Je veux bien y mettre la main, mais dis donc Marie, si je comprends bien, ton sacré gamin s'appelle plus Gaston.
Eric, tu es délégué syndical CGT à IBM.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, on est là pour lutter contre les politiques du capital. Il faut savoir que chez IBM, après avoir vécu une année 2013 compliquée sur le plan de l'emploi, puisqu'on a eu un plan social qui a conduit à la suppression de 700 emplois en France, dont 50 dans l'établissement Sud-Ouest, ce qui était une grosse perte évidemment pour notre établissement et des conséquences difficiles pour l'emploi.
Et après ce plan, on en est où là aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, le plan est fini, les gens sont partis, mais la direction recommence, c'est jamais assez. Donc cette année, ils annoncent un plan de départ volontaire de 438 emplois en France. On ne sait pas encore l'impact que sera sur l'établissement Sud-Ouest. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ce sont des pertes d'emplois, puisqu'il n'y a pas derrière d'embauche, il n'y a pas de renouvellement de ces postes-là. Voilà, donc aujourd'hui, IBM, qui était à plus de 15 000 emplois en 2005, est péniblement à 8 000, et suit la tendance et détruit les emplois en France et à l'étranger.
Au niveau des conditions de travail, comment ça se passe?
Ben, le problème, c'est que pour autant, les projets ne sont pas abandonnés, donc la charge de travail est reportée sur les gens qui restent. D'ailleurs, dans les mesures de départ, dans ce qui est négocié, on ne parle jamais de ce qui reste, ni de comment la charge va être répartie. Voilà. Par contre, ça se mesure effectivement par une tension assez vive dans les services.
Est-ce que, comme dans d'autres secteurs, je pense à Sanofi, je pense à d'autres boîtes, il y a aussi des licenciements au niveau de la R&D?
Oui, oui, tous les secteurs d'activité sont touchés. IBM est dans les hautes technologies et ne fait pas d'exception. Donc, que ce soit dans le développement logiciel, dans la R&D, voire même dans le matériel, puisqu'ils viennent de vendre leur secteur serveur à Lenovo. Donc voilà, oui, IBM, tous les métiers sont touchés, et y compris les métiers qu'on disait à haute qualification, qu'on pensait rester ici. Aucun projet IBM aujourd'hui ne se fait sans qu'une partie du travail soit délocalisée en Inde ou au Vietnam ou en Chine.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces logiques-là?
Ben, ce qu'on peut faire, c'est d'une part se mobiliser et mettre en place dans l'entreprise des syndicats qui ont une autre politique et pas une politique d'accompagnement de la destruction de l'emploi. Et après, il faut effectivement faire bouger les pouvoirs publics. Il y a des mesures assez simples que les pouvoirs publics peuvent prendre, c'est arrêter les aides aux entreprises qui licencient de manière boursière, parce que ces plans-là sont boursiers. Donc il suffit effectivement de couper les aides à ces entreprises-là, d'interdire les licenciements boursiers. Enfin, il y a une panoplie de propositions qui sont formulées par d'autres, par des partis politiques, qui pourraient tout à fait être adoptées par notre Parlement. Je veux dire, voilà, il y a un moment donné où il faut prendre les mesures et défendre les gens contre ceux qui est une attaque à leur vie, tout simplement.
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pagaillarde, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur est un seul. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci. Les octets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, l'MS-DOS qui a des bosses, les menus mal foutus, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens, c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est affolant mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Voilà. Laurent, tu travailles à l'INRA?
Oui.
Tu fais quoi comme boulot?
Moi je suis chargé de recherche.
D'accord.
Dans une unité mixte de recherche qui est à Saint-Martin-du-Touche.
D'accord. Pourquoi tu es là aujourd'hui dans cette manif du 6 février?
Alors je suis là à l'appel de mon syndicat qui est la CGT INRA. Pour diverses raisons, des raisons plus générales qui touchent les revendications portées par la CGT. à savoir sur les augmentations de salaire, sur l'augmentation du nombre de postes dans la fonction publique, sur la résorption de la précarité, et puis aussi sur des problèmes qui sont plus spécifiques à l'INRA. On mène des luttes internes également pour la résorption de la précarité dans l'Institut. Il faut savoir que dans la recherche, la majorité du travail de paillasse est effectuée par des précaires.
À l'INRA. De paillasse, ça veut dire quoi ?
Pardon ?
De paillasse ?
C'est-à-dire les travaux expérimentaux.
D'accord.
Les précaires, ça regroupe bien sûr des étudiants en thèse, des post-docs, mais également des personnels techniques qui sont embauchés pour une durée courte, qui peut aller jusqu'à 6 ans, sur des projets de recherche bien identifiés. Et ces personnels, à l'issue de cette période-là, sont jetés et ne sont pas reconduits, alors qu'on a des besoins qui sont permanents et récurrents pour effectuer ce travail-là. Donc on a à l'INRA, on compte sur l'ensemble des effectifs une 20% de personnel précaire à qui on ne propose pas d'avenir.
Comment ça se passe au niveau des partenariats publics-privés ? Parce que l'INRA, là, comme la recherche publique, il y a beaucoup de plus en plus de choses qui sont en lien avec les entreprises privées. Comment ça se passe ce rapport-là ?
Ce rapport-là, il est très variable selon... L'INRA est organisé en département de recherche, donc selon qu'on travaille sur les forêts ou sur l'alimentation, les rapports sont différents. C'est vrai qu'il y a des accords cadres avec des grandes entreprises au niveau de l'Institut. Maintenant, au niveau des unités, c'est très variable. Mon unité travaille en collaboration avec le privé. Ces collaborations, ça peut être soit des prestations de services, c'est-à-dire on travaille en direct pour une étude avec le privé, ça peut également être une vraie collaboration.
D'accord. Face à la précarité dans la boîte, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui ?
Ce qui serait faisable, ce serait d'avoir un plan massif de résorption de la précarité, comme ça a pu se faire c'est déjà arrivé par le passé. Faut savoir qu'il y a une loi qui est célèbre, qui est la loi Sauvadet, dont l'objectif affiché était la résorption de la précarité, mais avec des effets pervers dus en fait à une durée nécessaire de service effectué qui était portée à 6 ans pour pouvoir espérer ou un CDI dans la fonction publique ou de pouvoir passer un concours qui est réservé. Et du coup, les instituts de recherche ont dégraissé les personnels avant qu'ils arrivent à cette échéance de 6 ans.
D'accord.
Donc il y a quelques postes réservés, à l'INRA c'est famélique, je crois que c'est 10 postes. Et par la voie classique de rentrer dans la fonction publique, par exemple les concours chercheurs cette année à l'INRA, c'est 39 postes. Donc c'est bien, bien en deçà de ce qu'on pourrait attendre.
Bon, y a combien par exemple de personnel précaire aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, par rapport à ces 39 postes possibles ?
Alors au niveau de l'INRA, donc on compte, y a à peu près une 20% de gens qui sont précaires et on est à 8500, donc il y a à peu près 1800 précaires à l'INRA.
Oui, donc ça, on est loin du compte.
Voilà, on est loin du compte.
Et par rapport à la situation plus globale de la recherche publique en France, on en est dans quelle situation en ce moment ?
On est sur des effets d'annonce que les budgets sont des sanctuaires. On voit bien que c'est absolument pas le cas. Les budgets sont plutôt stables, mais si on parle en euros constants par rapport à l'inflation, c'est des budgets qui sont en diminution. Il y a des mises en réserve budgétaires qui sont également effectuées. À titre d'exemple, cette année à l'INRA, c'est aussi une politique de l'Institut, mais l'ensemble des départements de recherche, donc l'argent qui arrive dans les labos, a baissé de 14%.
D'accord.
Donc ça c'est du budget de fonctionnement. Ça, on ne parle pas de personnel, mais de l'argent frais qui arrive pour faire les manips.
Et là, pour pallier cette situation d'austérité, on pourrait dire, qu'est-ce qui est faisable ? Qu'est-ce que c'est les moyens d'action pour envisager ?
Ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on essaie d'aller chercher de l'argent. Nous, chercheurs en particulier, c'est devenu notre pain quotidien d'aller chercher des financements.
Chercheurs cherchent de l'argent, en fait.
Voilà, les chercheurs cherchent de l'argent quasiment à temps plein auprès de différentes sources. Ça peut aussi être sur du partenariat avec du privé. C'est aussi une source de financement. Les projets européens, ANR. On a un gros problème sur le financement qui est récurrent. Par exemple, ce qu'on appelle les parts chercheurs, c'est-à-dire ce que l'Institut alloue à chaque chercheur pour travailler, dans mon département, c'est 6 000 euros par an. Donc il faut bien comprendre que c'est absolument insuffisant. Avec ça, on doit payer les fluides, le téléphone et travailler. Donc voilà, après, nous, ce qu'on revendique à la CGT INRA, c'est que cette part chercheur soit portée à 20 000 euros par personne.
Ce qui
permettrait de voir
un peu plus venir et d'être moins dépendant des autres sources de financement qui, par définition, sont soumises à la concurrence.
Pour gagner ça, comment on fait ?
On revendique auprès de notre direction. C'est une question de choix politique après et il faut que les budgets suivent.
Bienvenue dans le monde de la recherche d'emploi. Savez que pour ne pas péter un plomb, il faut avoir la foi. Ou souvent la réponse c'est non. Sauf si tu as le bon bison ou bien le patron que t'appelles papa. Le pôle emploi tu connais.
Ah, ça, ouais.
Ça c'est nous aider à trouver où travailler, à trouver de quoi manger. Avant manger, il y avait des annonces concrètes. Maintenant j'y vais même plus car on me renvoie toujours sur internet. Et où tu convoques sans arrêt à tes frais pour te dire au final
le marché de l'emploi va mal.
Et pendant ce temps ton entourage t'harcèle, persuadé que tu ne veux pas te remettre en selle.
Dans la tête de mes parents, je suis toujours un feignant et politiquement je suis un clan qui ne fleurit pas au printemps. Je ne suis pas un animal et surtout pas paresseux. Je ne raconte pas la balle et du boulot de gens en veux.
J'ai cherché
et j'ai pas trouvé. J'ai tout essayé,
de mon petit CV,
j'en ai envoyé,
rien n'a fonctionné.
J'ai cherché
et j'ai pas trouvé. J'ai tout essayé,
de mon petit CV,
j'en ai envoyé,
rien n'a fonctionné.
Alors j'ai cherché encore une aide me permettant de survivre à l'or, histoire que mon propriétaire ne me mette pas dehors. Je croyais que le gouvernement ferait un petit effort.
Les voix d'un terrible déprime, j'ai fourni autant les mêmes rimes.
C'est très calme en ce moment, veuillez passer ultérieurement. Dès qu'on a des nouvelles, promis, on vous rappelle.
Donc je laisse mon portable branché
de la journée.
Personne ne le fait sonner, je suis désespéré. Et pas de réponse au courrier que j'ai envoyé. Les semaines sont passées. Ça y est,
un appel,
mais c'est magnifique.
C'est qui
les acédiques
qui me passent un message automatique
qui me rappelle qu'il faut que je pointe avant le 18. Sinon ça fait le bonheur des poules.
J'ai cherché
et j'ai pas trouvé. J'ai tout essayé,
tout mon petit CV,
ça j'en ai envoyé,
rien n'a fonctionné.
J'ai cherché
et j'ai pas trouvé. J'ai tout essayé,
tout mon petit CV,
ça j'en ai envoyé,
rien n'a fonctionné.
J'ai eu des espoirs, des entretiens, dès que j'ai failli y croire. Croisant leurs histoires, de grands comptes vous revoir. Mais au final, qu'il y a des espoirs, ils ne font que me décevoir.
Pas moi,
tout le monde en fait passer des tests après ce qu'ils m'ont dit. C'était réussi, pas de son, c'est pour recette. Et oui, donc j'étais ravi, et ils m'ont sorti une vieille excuse. Puis non, mon motivation, vous c'était la seule raison. Mais je veux dire,
j'ai la suite, tout le monde motivé, prêt à tout constater.
À cause de mon manque d'expérience, personne ne veut me donner ma chance. Mais moi ma chance, si on me la donne pas, comment me faire une expérience? Tout le monde a mon CV et je commence à perdre patience.
La mission locale ne me rend pas la morale.
Décidément, je vais finir à l'hôpital.
J'ai mal.
Au cœur.
À croire que je ne suis pas à la hauteur.
J'ai cherché
et j'ai pas trouvé. J'ai tout essayé,
tout mon petit CV,
ça j'en ai envoyé,
rien n'a fonctionné.
J'ai cherché
et j'ai pas trouvé. J'ai tout essayé,
tout mon petit CV,
ça j'en ai envoyé,
rien n'a fonctionné.
Parce que pour trouver des stages,
oui.
Étant donné qu'en fait, nos stages ne sont pas gratifiés pour certains d'entre nous, ce qui fait qu'on a des inégalités entre nous, ça engendre de la concurrence. Et donc, on veut que tous nos stages soient gratifiés pour tous, quelle que soit la filière, quel que soit le statut, que ce soit Pôle emploi, ceux rémunérés par Pôle emploi, ceux boursiers ou non boursiers.
Et alors du coup, tu travailles dans quoi toi?
Alors moi je suis éducatrice spécialisée en formation.
D'accord.
En première année.
Et stagiaire.
Nos formations, c'est des formations en alternance. Donc justement, on essaye de sauver cette alternance.
D'accord. Et les stages, donc dans cette formation, c'est combien de mois
Alors en fait, les stages de plus de 8 semaines doivent être tous gratifiés. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que les établissements sociaux et médico-sociaux qui nous accueillent n'ont pas les budgets pour nous rémunérer. ce qui fait que ça pose des problèmes pour trouver des stages, plus les inégalités qu'il y a entre nous, entre ceux qui sont gratifiables et ceux qui ne le sont pas.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous avez entrepris comme moyen d'action face à tout ça?
Alors là, nous allons au conseil régional pour leur demander leur soutien. Puis nous irons à la préfecture pour manifester devant la préfecture.
Et ton prénom, c'est?
Jennifer.
Ok.
Si t'es celui qu'on appelle le stagiaire, je te dédicace ces quelques vers, en espérant qu'au bout de ces quelques mois, tu puisses y voir une offre d'emploi. Hey les gars, il faut faire quelque chose, il est grand temps de prendre une pause café club, il nous faut notre dose, sinon je vais faire une overdose. C'est l'hymne de tous les stagiaires, de ceux qui taffent dans la galère, paient une misère, ou bien sans salaire, ferme ta gueule et surtout reste fier. Pas de CDI, pas de CDD, on veut de toi que pour l'été. Pas même la peine de supplier, tu feras les photocopies et le café. Si t'es gentil, même les courses du PDG. Prends vite l'habitude d'être le larbin, ne te lamente pas, et si tu ne fais rien, et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de tous les stagiaires, de ceux qui taffent dans la galère, paient une misère, ou bien sans salaire. Ferme ta gueule et surtout reste fier. Assis-toi en face du patron, et si t'es chaud, demande-lui une augmentation. Mais lui, il s'en fout, hey, qu'il est con, et ne rêve même pas d'un petit bifton. Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le peu de monnaie qui te reste dans tes mains te servira à payer le café d'un copain.
Merci à tous les salariés en lutte, Denis, Lionel, Mohamed, Yann, Nabil, Eric, Laurent, Jennifer et toutes et tous les autres qui étaient dans la rue jeudi dernier. On vous propose de continuer tout de suite en vous laissant avec les musiques de manif. Pour ceux qui n'étaient pas, mettez-vous dans l'ambiance, c'est parti.
Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, gâtons les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Impossible de violer cette femme et de vice. L'antisocial.
social, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial.
Et pour ceux qui sont plus amoureux des chansons chantantes, de la musique qui danse, de la musique toulousaine et de la lutte sociale, allez, on termine cette émission avec la Molex et les Grandes Bouches.
C'est pas loin de Toulouse que tout a commencé. Il y avait et les gars y travaillaient. Mais en écoutant la bourse, les patrons ont décidé que l'usine était moche, qu'il fallait tout brader. C'est pas qu'elle marchait pas, c'est que tous les rentiers y trouvaient que 10%, ça faisait pas assez. Ils ont loué des vigiles et des chiens qui aboyaient. Ils ont pris des ficelles, ils ont tout barricadé. Tout autour de l'usine, on ne pouvait plus passer. Ils voulaient prendre les machines, ah quelle drôle d'idée. Les Molex, ils ont vu ça, ils les ont empêchés. En leur collant une grève, les patrons l'ont pas volé.
La, 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 la,
Le président nous a dit, ah ça ne peut plus durer. Vous allez voir ce qu'on va voir, nous on va moraliser. Devant les télévisions, il nous a déclaré, il faut faire une commission avec monsieur le préfet.
La grève a continué, 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 la grève a continué.
Les molettes, ils ont vu ça et ils ont pas lâché.
Les molettes, ils ont vu ça et ils ont pas lâché.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Voilà, fin du mag de Canal Sud de ce mardi soir. On se retrouve demain midi pour le magazine de la mi-journée. On parlera de l'anti-pub avec Tanguy Obé qui passe au tribunal jeudi. Et puis on vous laisse tout de suite. Je crois que c'est avec la centrifugeuse. C'est ça, dans un instant. Allez, à 8h. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Et lâchez rien, on continue le combat.